Trainville PM. La voix est libre.
I am going to ask NATO to become much more involved in the Middle East process. We do not want to use it. American strength, both military and economic, is the best deterrent.
Voici Luc Lavoie.
OK, c'était Donald Trump, donc un peu plus tôt aujourd'hui, qui disait, écoutez, notre force militaire, notre force économique, c'est la meilleure dissuasion pour éviter une escalade. Mais par ailleurs, je vais demander à l'OTAN de se mêler de l'affaire. Et l'OTAN, ben le Canada en fait partie, mon cher Luc.
Salut Bernard.
Bonne année.
Bonne année à toi aussi.
Content de te revoir à la binette.
Moi aussi, puis surtout avec tes nouvelles chaussures, là, vraiment, bon. Là, je suis tellement fier.
T'es content, hein? Faut que vous sachiez qu'il arrête pas de m'écœurer avec mes chaussures, il trouve lettre. Alors que toi, tu portes toujours des petites chaussures vernies,
ben
polies.
Oui, pas du thé, puis on veut... On...
Puis tu te mets des petites chaussettes, des petits bas, comme on dit, là. Hein? Regarde, là, il me les montre. Il est content. Ils aiment, c'est beau. Ils aiment, t'es beau.
Mes belles petites chaussettes.
T'es comme Justin.
Mesdames et messieurs, avant qu'on aille dans les sujets sérieux comme l'Iran et l'Irak, on va parler de Bernard qui a présidé à une des quêtes les plus extraordinaires de l'histoire de l'Église de l'île du Pâques.
Et d'ailleurs, tu as tenu parole. Tu avais dit, tu mettras 20$ dans la quête en mon nom puis je vais te rembourser. Et tu m'as remboursé le 20$. Je te félicite. Voilà. Alors oui, ça a été une quête historique.
Félicitations. Félicitations.
Les gens qui nous écoutaient, visiblement, il y en a qui ont décidé de venir à la messe de minuit de l'île du Pâques.
Et voilà. Est-ce que c'était une belle au moins?
C'était une très belle messe puis c'était bien plein. Et puis, on a mis de l'argent de côté pour payer l'organisme, notamment l'année prochaine.
Bon.
Fait que, Luc, t'as contribué, tu vois.
Vive l'Église du Pas.
De l'île du Pas.
De l'île du Pas. Qu'est-ce que je dis là?
L'île du Pas.
Bon, OK, l'île du Pas. Revenons à l'Iran.
C'est pas mal plus sérieux.
Il s'en est passé des affaires depuis hier dans ça, là, hein, je veux dire.
Ouais.
Commençons par le bombardement de, on n'est pas encore clair, mais 22 ou 23 missiles balistiques envoyés par l'Iran sur des bases militaires qui ont été qui abritaient entre autres des soldats américains.
Exact.
Mais
et canadiens, hein?
Est-ce qu'ils étaient là? Non, ils ont déjà résidé là, je suis pas sûr qu'ils étaient là, mais
ça c'est pas clair encore, mais en tout cas s'ils y étaient ou peu importe, ils ont été déménagés au Koweït. On parle des soldats canadiens là.
Bien sûr. Alors maintenant, dès que j'ai écouté cette nouvelle là, j'ai entendu la rapidité avec laquelle elle évoluait en provenance de Téhéran. J'ai bien compris que l'escalade, on ne l'aurait pas devant nos yeux. Ce que les Iraniens ont fait, c'est pour consommation interne. Parce qu'ils ont donné un avertissement aux Américains puis aux Alliés. On va frapper à telle heure, à telle place.
Et voici
ce que vous devez... En tout cas, faites ce que vous avez à faire, mais...
Mais la preuve, c'est qu'il n'y a pas eu de victime, finalement.
Il n'y a pas eu de victime, ni des Irakiens, ni des Américains, ni aucun des membres de même pas de blessés.
Donc, pour toi, c'était le signe que les Iraniens étaient sages, qu'ils n'allaient pas escalader l'affaire.
Ben, je vais répéter ce que j'ai dit hier avec Dan Bigra. Je pense que, à l'heure actuelle, je ne pensais pas que je dirais ça un jour, mais les Iraniens se conduisent de façon beaucoup plus rationnelle à l'heure actuelle que ce qui vient de Washington. Souviens-toi, avant-hier, la lettre envoyée par un brigadier général basé en Irak qui informe les Irakiens qu'ils vont sortir les troupes. Et là, le secrétaire à la Défense qui refait surface pour dire « Oh, c'était juste une ébauche de lettre, on n'a pas pris de décision là-dessus. »
Toi, tu penses-tu que les Américains se préparent à quitter l'Irak?
Bien, ça m'apparaît bien évident parce que...
Fait qu'on va avoir fait la guerre en Irak pour rien, Luc?
Bien, je comprends, ça fait longtemps qu'on le sait. Non seulement on l'a fait pour rien, mais ce qu'on a fait a été en détériorer la situation d'une façon dramatique. La guerre en Irak, c'est une catastrophe de politique étrangère.
Oui, mais là, c'est quasiment une farce.
Oui, bien là, justement, aujourd'hui, on attendait la réaction de Donald Trump. Il a convoqué les médias. C'était toute une mise en scène, d'ailleurs.
Les généraux derrière lui.
Oui, oui.
As-tu déjà vu une conférence de presse d'un président américain avec des généraux plantés en plan de verre derrière lui,
c'est
toi?
C'est ça. Les chiefs of staff, là, les chefs des différentes forces de l'armée américaine étaient là. C'était très solennel. Il est arrivé, il a lu une déclaration à partir d'un télésouffleur, donc pas d'improvisation.
Oui, ça, c'est important.
Et donc, ça avait été écrit avec attention. Et bon, il y avait toute sa rhétorique belliqueuse habituelle, puis un peu de claque sur la gueule à Obama, puis des ta-ta-ta-ta-ta. Et tout à coup, mes oreilles ont fait « Oups! » Il vient de dire « Je vais demander aux pays de l'OTAN de s'impliquer considérablement plus dans le processus du Moyen-Orient.
Oui, puis ça, tout à l'heure, quand tu es rentré en studio, tu m'as dit, Bernard, c'est le bout le plus important du discours pour nous comme Canadiens. Là.
Absolument. Parce que, d'abord, ce qu'il veut faire, c'est dire à l'OTAN, d'abord, il se plaint qu'on ne fait pas assez au sein de l'OTAN. Tous les autres pays membres n'en font pas assez.
Ouais.
Il a même, à un moment donné, quasiment menacé de quitter l'OTAN si le monde ne se réveillait pas. Et là, il leur donne un puissant défi à l'OTAN. Vous me dites que vous êtes de notre bord, alors on a besoin de vous autres, là. Votre alliance militaire va prendre notre place. Alors, ça veut dire qu'il y aurait au sein de la présence militaire occidentale au Moyen-Orient, il y aurait des Américains, mais ils ne seraient qu'une des composantes. L'OTAN, je crois que c'est 27 pays, je pense.
Toute l'Europe de l'Ouest, plus plusieurs pays qui étaient dans l'Europe de l'Est auparavant, qui étaient dans le pacte de Varsovie.
C'est ça. Ouais. La Pologne, entre autres. Ouais, ouais. Alors, ça, c'est la grosse nouvelle. C'est que ce que j'entends de ces propos-là, et n'oublie pas que c'est une chose qu'il avait promise lors de sa campagne électorale, sa campagne présidentielle de 2016, de retirer les soldats américains de ces zones de combat, enfin de cette région du monde. Et là, on est en train de le voir aller. Il assassine un général. Ils ne savent pas trop quoi faire. On se dit, mais quoi, c'est une escalade guerrière qui va faire exactement l'inverse? Non. D'abord, l'Iran a compris que si jamais il ripostait de façon à créer des victimes chez les soldats américains, ça aurait été une catastrophe pour eux. Militairement...
Je pense que Trump, toi, serait allé... Mettons qu'il y aurait eu des soldats américains tués dans l'attaque iranienne, l'attaque à la roquette d'hier.
Il aurait donné un puissant coup.
Oui. Est-ce qu'il aurait attaqué le territoire iranien?
Probablement, mais à partir de ses navires de combat, à partir de ses drones.
Mais il aurait attaqué le territoire iranien, soit dans les eaux maritimes iraniennes ou même le territoire terrestre.
Ou même le territoire terrestre, oui, c'est sur des bases militaires. J'ai l'impression qu'il aurait été frappé sur des bases militaires. Mais là... Les Iraniens ont dit, bon, ça prend un chaud de boucan pour notre population ici, là, qui est en deuil. Fait qu'on va envoyer 22, 23 missiles. C'est, en plus, il y a un autre aspect à cet envoi de missiles-là. C'est que l'Iran, depuis environ 6 ou 7 ans, développe des missiles balistiques d'une nouvelle génération.
Longue portée.
Longue portée, mais aussi beaucoup plus précis.
Pour pouvoir atteindre le territoire israélien.
Oui, Et justement, hier, c'était une démonstration de la précision de ces missiles. Ils ont dit, on va frapper à telle place, telle place, telle place, telle place, allez, faites de l'air. Et ils ont frappé exactement dans les cibles. C'était une sorte d'avertissement que sur le plan militaire, on n'est pas si facile que ça à battre.
Je peux-tu te poser une question par rapport à l'écrasement de l'avion?
Ah, ça me préoccupe profondément. Ça, Bernard.
Toi... Est-ce que tu exclus la possibilité que ce soit lié au conflit?
Non, je ne l'exclus pas. En fait, je souhaite que ce n'est pas le cas.
Ben, on s'entend.
Mais souviens-toi qu'il y a un certain nombre d'années, un avion commercial transportant un avion civil avec des passagers a été abattu par un navire militaire américain. Et c'était un avion de la Iran Air. C'était un avion iranien.
Exact.
Et là, tu te dis, sont-ils en train de dire, tu te souviens de la fois que tu m'as descendu un avion?
Moi aussi, je suis capable.
Ouais. Et je t'avoue que t'es là. Hier soir, j'écoutais se dérouler les choses. Tu sais, des fous d'informations comme nous deux.
Ben oui.
On est là, on va à un canal, puis on va à l'autre, puis on essaie de voir. Tout à coup, hey! Il y a un écrasement d'avion tout de suite à la sortie de l'aéroport de Téhéran. Allô? Dans ces circonstances-là? Et ce qui est pire, c'est que... Les Canadiens étaient 64 bord de l'avion.
C'est drôle parce que moi...
Dont des Québécois, on n'a pas encore les noms, mais on sait qu'il y en avait du Québec.
Il y avait du monde de Montréal. Mais je me suis dit, c'est tordu en maudit là, comme hypothèse, là. Mais c'est une hypothèse. Mais je me suis dit, tu veux envoyer un message aux Américains sans le faire de façon frontale pour ne pas amener des représailles, tu touches l'allié le plus proche, le voisin des États-Unis, et tu descends un avion dans lequel il y a beaucoup de Canadiens. Ça, c'est une hypothèse.
Ça m'a traversé l'esprit aussi. Et j'ai hâte de savoir, parce que tout le monde a de l'air à vouloir à l'heure actuelle, et c'est probablement de ça que Trudeau va parler cet après-midi. Comment tout le monde parle de ça comme d'un écrasement d'avion, comme on en voit à l'occasion, malheureusement. Mais c'est drôle comme timing. Ouais. C'est drôle.
C'est ça.
Vraiment, là, les missiles sautent, là. Puis quelques heures après, t'as un avion commercial au départ de Téhéran qui s'écrase.
Deux minutes après le décollage.
Deux minutes après le décollage, puis vraiment...
En flamme.
En flamme.
Ouais,
ouais. Alors, c'est quoi cette histoire-là? C'est assez inquiétant. Merci beaucoup.
L'affaire qui vient défaire un peu l'hypothèse, c'est que dans la liste des victimes, le deuxième groupe le plus représenté, c'est les Canadiens, 60-quelques victimes, mais le groupe le plus représenté, c'est les Iraniens.
Oui.
Alors là, je me suis dit, si c'était manigancé, si c'était un attentat dans les faits, là, un attentat terroriste, qui serait peut-être pas organisé par l'État iranien, mais par des groupes qui feraient le travail pour eux, hein, on s'entend.
Les fameux groupes que Soleimani avait mis sur
le pied. Et voilà, les gardiens de la Révolution et tout le reste. Il me semble qu'il ne s'attaquerait pas à un avion dans lequel prenait place autant d'Iraniens.
C'est un argument très valable, mais j'ai hâte d'en savoir davantage, parce que finalement, on ne sait rien à l'heure
actuelle. Puis là, on sait que le gouvernement iranien ne veut pas remettre à Boeing les fameuses boîtes noires. Fait que là, c'est l'État iranien qui va interpréter, qui va supposément dévoiler le contenu des boîtes noires.
Oui, puis qui va mener l'enquête. T'sais, alors que souvent, on s'en remet à des pays qui ont une expertise. Par exemple, dans le cas de l'avion en Ukraine qui avait été abattu par un missile, l'Ukraine avait demandé aux Pays-Bas de venir faire l'enquête parce que leur expertise était plus pointue, parce qu'ils ont construit à travers le temps des avions. Alors, ici, l'Iran dit non, vous n'aurez pas les boîtes noires, ce qui est bizarre, hein, me dit-on, ce que j'ai écouté ce matin, un expert qui disait, mais normalement, là, tu donnes une copie au constructeur parce que c'est lui qui peut amener certaines nuances, certaines explications. Que... Alors ça, c'est assez troublant. C'est même extrêmement troublant.
Juste pour être bien factuel, parmi les victimes, là, 82 Iraniens, 63 Canadiens, 11 Ukrainiens, 10 Suédois, 4 Afghans, 3 Allemands, 3 Britanniques. Aucun Américain.
Aucun Américain. C'est vraiment quelque chose. Hein.
En tout cas, c'est un accident, là.
Il tombe drôlement. Il tombe drôlement.
Pas tort.
Alors là, je pense que les Iraniens n'iront pas beaucoup plus loin. Je pense, d'abord, employer l'expression de Donald Trump, they're standing down, en d'autres mots, ils reculent.
Ouais, ouais.
Je pense que c'est le cas. Mais il faut jamais oublier que l'Iran, entre autres, parce que Soleimani a bâti tout ce réseau-là.
Ils ont d'autres moyens.
Ben, ils ont des moyens. Ils contrôlent le Liban via le Hezbollah.
Exact.
Ils contrôlent la Syrie de connivence avec les Russes. Hein, à cause de Hezbollah aussi.
Ils contrôlent la bande de Gaza à travers Hamas.
Ils contrôlent la bande de Gaza. Ils contrôlent une partie du Yémen où se trouvent les Houthis.
Exact.
Alors, tu mets tout ça ensemble, ils peuvent attaquer de plusieurs endroits.
Voilà.
Et pas nécessairement une attaque frontale qui a l'air d'être bien ordonnée par l'État. Parce qu'ils étaient très forts là-dessus. Tu te souviens, ils ont arraisonné des bateaux dans le détroit d'Ormuz, mais ils refusaient d'admettre que c'était eux qui l'avaient fait. Ils ont descendu des drones. Je ne sais pas qui a descendu ces drones.
Mais ils ont fait ce que Poutine a fait dans la partie est de l'Ukraine.
Ben oui.
Hein? Il a toujours nié que les Russes étaient en Ukraine, alors qu'on savait tous que c'était les Russes qui étaient derrière la partition.
Ben oui.
Ils faisaient faire le sale boulot par des paramilitaires.
Ben oui, puis aussi par des militaires qui se déguisaient en
paramilitaires. Alors, les Iraniens pourraient très bien décider de frapper les Américains, mais d'une manière très sournoise, sans en réclamer la paternité, et en envoyant un petit message par les voies clandestines en disant, regardez, des bains, là.
Ouais. Faites attention. C'est remarquable que, d'ailleurs, hier, Vladimir Poutine, pour la première fois de sa vie, était à Damas, a visité la Syrie.
Il est en train de récolter les fruits, hein?
Monsieur, hein? Parce que lui, en plus, il a signé une alliance militaire avec l'Iran l'été dernier. Ils avaient diverses formes d'alliances commerciales, mais ils ont signé un accord militaire, c'est-à-dire que s'il y en a un qui est attaqué, l'autre vient à sa défense. On est dans une poudrière absolument incroyable et l'Iran, en plus, laisse entendre que sa vraie cible serait peut-être Israël. Alors là, Netanyahou a répondu, si vous attaquez Israël, ça va être une catastrophe pour vous.
Non, puis c'est pas la fin de l'histoire, parce que t'as vu, là, les Iraniens ont dit qu'ils allaient recommencer à enrichir l'uranium.
Oui, bien oui, bien sûr.
Ça, c'est chercher les Israéliens.
Ben oui, mais c'est au cœur de tout. C'est ça qui rend Israël malade.
Trump a réitéré, jamais les Iraniens auront la bombe nucléaire. On sait que les Israéliens l'ont.
C'était d'ailleurs remarquable, t'as remarqué, quand il a fait sa déclaration, avant de commencer sa déclaration, avant de se tourner vers ses télésouffleurs, il a dit, je veux vous dire que tant que je serai président, il n'y aura jamais de bombe atomique entre les mains des Iraniens. Il a ouvert comme ça. Ah bon? Mais merci, M. le Président.
Je veux dire, Netanyahou n'en demandait pas tant. Hein?
Moi, je m'inquiète pour les forces canadiennes qui sont là. Mais là, ils les ont déplacées vers le Koweït. J'espère qu'ils ont tous déplacé, parce que c'est principalement des forces spéciales qui opèrent généralement en petits groupes dispersés.
Qui entraînaient l'armée irakienne. Mais qu'est-ce qui reste de l'armée irakienne, Luc? On a l'impression que ce pays-là est noyauté par l'Iran.
Mais complètement noyauté.
D'abord,
les chiites sont majoritaires terre d'Irak.
Jamais l'oublier.
Largement majoritaires.
Et
littéralement, les chiites de l'Irak se tournent vers Téhéran comme étant leur légitime dirigeant. C'est là qu'on en est. C'est ça que ça a donné 2003. On voulait affaiblir l'Iran. On n'a jamais réussi à faire de l'Iran un pays aussi puissant qu'en faisant ce qu'on a fait, parce que ça a fait passer leur population, littéralement, de 85 millions à 100 millions de personnes, parce que les 15 millions de plus, là, je les compte. Je veux dire, qu'est-ce que tu veux? On me dit, j'ai vu un reportage dans le New Yorker, il y a quelques mois, la frontière qui existait entre l'Iran et l'Irak, il n'y en a plus. Il n'y a plus de post-frontière. Je veux dire,
L'Irak est en train de devenir un prolongement de l'Iran. À bien des égards.
Et là, tu as cette espèce de... Il y avait une théorie qui avait été avancée par un penseur d'origine libanaise à l'époque de l'invasion en 2003. La théorie était la suivante. Regardez ce que font les Américains. Puis vous allez remarquer qu'ils sont en train d'essayer de former des blocs qui vont se neutraliser l'un l'autre, c'est-à-dire qu'est-ce qui va arriver avec l'Irak sunnite? Est-ce qu'elle va s'associer avec un autre pays sunnite? Parce que là, les chiites sont en train de s'unifier.
Voilà.
Et les chrétiens, eux autres, sont en train de se faire sacrer dehors, de toute façon.
Et qui est la puissance sunnite qui pourrait être tentée d'unir le bloc sunnite? C'est l'Arabie Saoudite.
C'est l'Arabie Saoudite. Fait qu'on se dirige. Qui...
Alors, la thèse dont tu nous parles, c'est l'Arabie Saoudite contre l'Iran, dans le fond.
Et on dit que c'était tu dois te souvenir d'un certain Paul Wolfowitz, qui a été National Security Advisor, qui est un professeur à Harvard et qui a été aussi le directeur du Fonds monétaire international.
Qui était la tête pensante à toute fin pratique de l'invasion de 2003.
Et sa théorie, paraît-il, en tout cas, c'est ce que j'avais appris en lisant cet article, sa théorie, c'était justement quand il y aura une contrepartie solide aux sunnites que seront les chiites, Israël va être plus en sécurité.
Oui, parce qu'ils vont se combattre l'un l'autre.
Ils vont se combattre l'un l'autre, ce qui est en train de se produire d'ailleurs. Israël vit une période de paix à l'heure actuelle, comme ils n'en ont pas vécu depuis très longtemps.
The balance of power.
Richelieu.
Entre autres, hein?
Henry Kissinger.
Les Britanniques ont été bons là-dedans aussi. OK, on s'arrête.
Bismarck.
Parce que... oui, Churchill. OK, on s'arrête.
Oui.
Parce qu'au retour...
Là, ça va être plus triste, là.
Là, on parle de la défaite du Canadien, et puis on a une belle surprise. Martin McGuire va venir nous rejoindre. La défaite du Canadien hier contre Détroit, la pire équipe de la Ligue. Honnêtement, moi, le Luc, là, j'étais devant ma TV hier, là, et je capotais. Je te le dis, là. Je capotais. Je me suis dit, ça se peut pas qu'on perde contre Détroit, là. Ça se peut pas. J'ai l'impression hier qu'on a vécu, c'était comme ils disent en bon latin, le tipping point, le point de bascule, là. L'impression qu'on a peut-être vécu le point de bascule hier, hein.
Oui, moi, je pense aussi. Puis je me demande s'il y en a pour très longtemps, M. Bergevin, à la tête de cette organisation.
Oui, mais il y en a qui disent que le premier à tomber, ça va être Julien avant Bergevin. Peut-être que Bergevin va faire sauter la fusible Julien avant de lui-même sauter. En tout cas, c'est des questions dont on va parler avec McGuire, Martin McGuire, tout de suite après la pause.